Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Nous vous souhaitons un joyeux Noël. Et lors de cette émission spéciale, nous allons réfléchir sur le sens de cette fête.
Lors de la fête de Noël, nous devrions nous souvenir de la naissance de Jésus et célébrer l'arrivée du roi sauveur promis par les prophètes de l'Ancien Testament. Toutefois, chez beaucoup, la naissance de Jésus est oubliée et d'autres traditions et légendes ont malheureusement pris de l'importance. Et aujourd'hui, en compagnie d'Uli, nous allons parler d'un personnage qui, à l'occasion de Noël, occupe les pensées, surtout celles des enfants. Nous allons parler du Père Noël. Uli, bonjour.
Bonjour Yann, et bonjour à tous.
Alors Uli, parlez-nous du Père Noël.
Je pense que le Père Noël est connu de tous. Il est celui qui est supposé apporter des cadeaux aux enfants pendant la nuit, la veille de Noël alors que tout le monde dort.
D'où vient cette idée, cette légende?
Cela étonnera peut-être nos amis, mais la légende du Père Noël trouve ses origines dans l'histoire de l'Église. Le nom Père Noël est la traduction française désignant un personnage qui est connu dans d'autres langues sous le nom de Santa Claus ou bien de Saint Nicolas. Dans beaucoup de pays, c'est Santa Claus qui est supposé laisser des cadeaux en secret aux enfants à l'occasion de Noël.
Et nous pouvons deviner qu'à l'origine, le Saint Nicolas était une personne réelle, un chrétien?
C'est exact, Yann.
Et que savons-nous de lui?
Il y a beaucoup de traditions et de récits au sujet de Saint Nicolas. Comme c'est souvent le cas, il n'est pas toujours évident de discerner le vrai du faux, de trouver les faits réels dans des histoires très embellies et exagérées. Cependant, nous sommes en possession de certains faits qui semblent très bien fondés et qui nous permettent de comprendre d'où viennent les traditions autour du Père Noël. Nicolas est né de parents riches en l'an 270 dans une région d'Asie mineure. Ses parents sont morts quand il était encore jeune, et étant le seul enfant, il a hérité de tous leurs biens. Élevé par son oncle, qui était évêque, il est devenu chrétien et plus tard, il a choisi de devenir moine dans un monastère près de Bethléem. Quelques années plus tard, il est revenu à Myra, en Asie mineure, pour servir l'Église et il fut nommé évêque de Myra en l'an 317 et il est mort en l'an 345. Cependant, ce qui nous intéresse le plus, c'est sa réputation. C'était un homme très généreux envers les pauvres. Il avait en sa possession une grande fortune dont il s'est servi en secret pour venir au secours des nécessiteux.
Merci, c'est intéressant. Pouvez-vous nous donner des exemples de sa générosité?
Oui, voici le récit le plus connu. Dans la ville de Myra vivait un homme pauvre qui avait trois filles. Il était si pauvre qu'il ne pouvait pas espérer payer la dot qui permettrait à ses filles de se marier. Or, dans la culture de cette époque-là, une jeune femme qui ne pouvait pas se marier devenait un sujet de honte et de déshonneur. De plus, trop souvent, ces femmes tombaient dans la prostitution. Nicolas a pris la situation humiliante dans laquelle cet homme et ses filles se trouvaient. Alors, le jour où la première fille atteignit l'âge de se marier, Nicolas, en cachette, mit une bourse avec quelques pièces d'or à l'intérieur de la maison de l'homme démuni. Ces pièces permirent à l'homme de marier sa fille aînée, mais il ignorait d'où ces pièces étaient venues. Puis, quand la deuxième fille atteignit l'âge de se marier, le même scénario se répéta, mais l'homme ignorait toujours qui était à l'origine de ce geste généreux. Enfin, quand sa troisième fille atteignit l'âge de se marier, l'homme voulut savoir qui faisait preuve de tant de générosité et il guetta alors sa porte d'entrée. Nicolas la prit et ainsi averti, il passa derrière la maison de l'homme en question, grimpa sur le toit et laissa tomber une bourse remplie de pièces d'or par la cheminée. Apparemment, cette troisième jeune fille avait suspendu une paire de bas au-dessus de l'âtre et la bourse tomba dedans. À son tour, elle put aussi se marier, sans toujours connaître l'origine des pièces d'or. Selon d'autres sources très vraisemblables, les démunis de Mira pouvaient laisser leurs souliers dehors et la nuit, Nicolas arpentait les rues pour y placer des pièces d'argent.
Merci, Uli. Je constate qu'il y a de fortes similitudes entre ces récits et certaines traditions pratiquées à l'occasion de Noël.
C'est exact, Yann. Nous ne savons pas trop comment ces récits et ces traditions ont été embellis et transformés pour devenir les légendes féeriques associées à Noël. Mais c'est à partir du 19e siècle et surtout au 20e que les traditions et les mythes autour du Père Noël, tels que nous les connaissons aujourd'hui, ont pris de l'ampleur et marquent notre façon de célébrer Noël.
Merci Uli de nous avoir ainsi éclairé sur les origines de ce personnage si connu, le Père Noël. Mais peut-on trouver des leçons instructives pour nous aujourd'hui à partir des récits sur Saint-Nicolas?
Oui, j'en ai deux.
Et quelle est la première?
Simplement que Saint-Nicolas est un exemple à suivre. Nicolas avait compassion des pauvres. Il se souciait des démunis. Il a exprimé son amour envers son prochain à travers des gestes concrets qui répondaient à leurs véritables besoins. La compassion, la générosité et l'amour pour notre prochain sont des qualités auxquelles tout chrétien doit aspirer. L'exemple de Nicolas peut nous inspirer et nous encourager à les posséder. La Bible aussi, bien sûr, nous exhorte dans ce sens. Citons un texte dans la première épître de Jean, chapitre 3, versets 16 à 18, qui parle de l'amour que nous devrions avoir envers notre prochain.
Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères. Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'ils se traduisent par des actes accomplis dans la vérité.
Par ailleurs, il faut se souvenir que dans la culture d'Asie mineure au IVe siècle, les gens avaient du mal à accepter de devoir recourir à la charité. Ils considéraient comme humiliant de recevoir l'aide de quelqu'un. C'est pourquoi Nicolas a trouvé le moyen de venir au secours des uns et des autres discrètement, sans mettre les gens dans l'embarras. Nous aussi, dans le contexte de nos cultures et du fait de nos mentalités, nous avons besoin de sagesse pour discerner comment aider au mieux les pauvres sans les humilier, sans alourdir leur situation et sans nous vanter de ce que nous avons fait. À cette occasion de Noël, nous pouvons réfléchir à ce que vous pouvez faire pour aimer notre prochain, par des gestes qui apporteront un secours réel et utile. Toutefois, ces gestes d'amour envers notre prochain ne doivent pas se limiter à une journée spéciale dans l'année. Non, nous devons apprendre, comme Nicolas, à ce que la pratique de la générosité devienne une habitude de vie tout au long de l'année.
Merci pour ce rappel biblique si important. À présent, quelle est la deuxième leçon que vous voulez souligner?
Je voudrais que le récit de Saint-Nicolas oriente nos regards vers la signification réelle de la naissance de Jésus-Christ. Écoutons pour cela un texte biblique dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9.
Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis.
Jésus-Christ est le cadeau de Dieu par excellence, et à l'occasion de Noël, nous célébrons son arrivée dans le monde. Le Fils éternel de Dieu s'est fait homme. Il a quitté la gloire des lieux célestes pour naître au sein d'une famille aux moyens modestes, dans un coin reculé de l'Empire romain. le Fils éternel de Dieu a quitté la gloire des lieux célestes pour assumer toute la fragilité et la vulnérabilité d'un bébé, Jésus. Ce dernier a grandi, comme nous tous, dans un monde frappé par le malheur. Jésus est devenu le serviteur de tous et il a fini ses jours cloué sur une croix romaine, condamné pour des crimes dont il était innocent. Et pourtant, sur cette croix, Jésus s'est offert en sacrifice, prenant sur lui les péchés de son peuple. Il a ainsi payé le prix pour obtenir notre pardon et notre salut.
Oui, Jésus, le Fils éternel, s'est appauvri et s'est abaissé pour nous. Mais Uli, quand l'apôtre Paul affirme que Jésus s'est appauvri pour nous enrichir, que voulait-il dire?
Oui, il est important de comprendre de quelle richesse il s'agit. Paul n'évoque pas ici les pièces d'argent, ni les biens matériels. Jésus est venu essentiellement pour nous enrichir sur le plan spirituel. Tous les hommes sont spirituellement pauvres, car sur le plan spirituel, il n'existe pas de différence entre riche et pauvre. La pauvreté spirituelle, c'est être privé d'une relation personnelle authentique avec Dieu. C'est être privé de la vie éternelle. Nous sommes pauvres spirituellement du fait de notre condition de pécheur, de nos fautes qui ont brisé toute relation avec Dieu. Jésus a donné sa vie pour remédier à cette situation. Sur la croix, il a obtenu notre pardon, ce qui permet notre réconciliation avec Dieu. Dans le récit concernant Saint Nicolas, l'argent qu'il distribuait n'était pas la véritable richesse, mais ces pièces ont permis aux jeunes femmes de trouver quelque chose de meilleur. Ces pièces ont permis aux jeunes femmes de sortir de la honte et de l'humiliation. Elles ont permis à ces jeunes femmes de trouver un mari. À l'occasion de Noël, nous célébrons le fait que Dieu nous a donné Jésus-Christ. Grâce à la mort de Jésus-Christ sur la croix, notre honte et notre culpabilité sont enlevées et du coup nous pouvons trouver Dieu, nous réconcilier avec lui qui se présente dorénavant comme notre Père céleste. Grâce à l'appauvrissement de Jésus, nous sommes enrichis car nous prenons connaissance de la plénitude de l'amour de Dieu. Dieu se donne à nous, nous pouvons nous réjouir de ce cadeau à l'occasion de Noël, mais aussi tous les jours de notre vie.
Merci Uli pour votre participation aujourd'hui et pour toutes vos réflexions intéressantes.
De la part de toute l'équipe d'Espérance aujourd'hui, nous vous souhaitons un joyeux Noël, enrichi par la présence fidèle de notre Père Céleste. En attendant de vous retrouver bientôt, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.